BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file tout de suite sur les marchés pour entamer cette deuxième heure grâce à Antoine Larrey-Gaudrey qui suit ce marché parisien pour cette première séance de la semaine. Antoine, on a essayé de revenir dans le vert, mais sans y parvenir pour le moment.
On n'y arrive pas. Très peu de conviction ce matin sur les marchés. Alors ça peut paraître étonnant parce qu'on avait un influx positif du côté des marchés chinois ce matin, notamment avec le Hang Seng à Hong Kong qui a pris plus de 4%, les valeurs techno chinoises qui étaient en pleine ébullition, le composite de Shanghai qui a pris plus de 1% en clôture. Mais voilà, très peu d'impact sur la cote européenne. Il faut dire qu'on sortait d'une séance et une clôture particulièrement indécise du côté des marchés américains vendredi soir et que depuis il n'y a pas vraiment eu de catalyseur marquant pour activer un petit peu le marché. Action, en tout cas, parce que ça bouge par ailleurs. À noter quand même que du côté de la volatilité, on a repassé légèrement le cap des 20 points sur l'indice VIX américain. On a également une très belle performance de l'euro-dollar hein, qui se dirige tranquillement vers 1,06 au plus haut depuis fin juin, avec certes un affaiblissement du dollar, mais aussi peut-être des combis qui commencent à prendre en compte toutes les analyses qui tombent sur la baisse de la demande, notamment en gaz, du côté des grands industriels européens. Une note qui pourrait être un petit peu moins forte que prévu au terme de l'année et un impact moindre sur les perspectives économiques européennes. Donc ça explique aussi un petit peu cette hausse de l'euro, ce momentum favorable hein, comme disent les analystes. Et puis du côté du pétrole, c'est vrai qu'on en parlait, le statu quo de l'OPEP n'a pas provoqué grande réaction. On est du côté des $87 pour le baril de Brent de mer du Nord. Donc du coup, on revient sur les valeurs cycliques européennes, les grosses industries, notamment celles liées aux matières premières avec ArcelorMittal qui gagne 2%. On est à 26,20 €. On a également Eramet sur le SBF 120 qui gagne 5,9% à 84,40 €. CGG aussi, plus 2,8% à 68 centimes. Sinon, à signaler la bonne performance du secteur bancaire sur le CAC 40 avec Crédit Agricole qui prend 0,7% à 9,60 €. On a BNP Paribas plus 0,6% à 53,06 €. Puis à noter Le Grand tiens, qui a fait le grand 8 à l'ouverture. Le titre gagnait plus de 5% et d'un coup, ça s'est calmé. Il reste quand même bien orienté, hein, ce titre Le Grand, plus 0,85% à 80,28 €, mais c'était un peu l'anomalie de ce début de séance. A signalé à la baisse Bouygues, moins 3,4% à 28,89 €. Michelin, moins 1,8% à 26,64 €. Puis à noter quand même un tiers groupé de la techno européenne qui n'est pas très bien orienté aujourd'hui. Dassault Systèmes, moins 1,7%, on est à 36,11 €. Capgemini, moins 1,29 €, 175,35 €. Le CAC 40 donc en très légère baisse, moins 0,17%, 6 730 points. Et puis l'euro, on le disait, 1,05 € 60 face au dollar, Cédric.
Antoine Larrey-Gaudrey qui nous accompagne chaque matin depuis cette salle de contrôle de l'indice CAC chez Euronext à la Défense. Bonne séance sur le marché, Antoine. Et tout de suite, c'est l'Info Éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, après le charbon et le gaz, l'Europe se passe du pétrole russe. L'embargo européen entre en vigueur aujourd'hui. Plus aucun cargo ne pourra décharger de brut russe dans les ports européens. Autre décision, le plafonnement du baril à $60. La mesure a été adoptée par l'Union européenne, le G7 et l'Australie. Elle vise à restreindre les revenus de la Russie tout en s'assurant que Moscou continue à alimenter le marché mondial. De son côté, l'OPEP Plus a finalement décidé de s'en tenir à ses côtés. Actuel. La Chine assouplit les restrictions anti-Covid. Le gouvernement annonce une série de mesures, dont la fin des tests de masse et la réouverture des commerces. C'est notamment le cas à Pékin et Shanghai. Une décision qui intervient alors que l'activité dans les services s'effondre, bien plus encore qu'attendu, en particulier dans le tourisme, l'hôtellerie, restauration et les transports. Le gouverneur de la Banque de France plaidera pour une hausse des taux de 0,5% lors de la prochaine réunion de la BCE. Ce sera le 15 décembre. François Villeroy de Gallo dit le souhaiter à titre personnel. Il ajoute que la BCE va entamer la seconde mi-temps de sa politique monétaire et procéder à des hausses de taux plus flexibles à partir de janvier en fonction de la conjoncture. Toujours en zone euro, l'activité du secteur privé recule en novembre pour le 5e mois consécutif. L'économie européenne se dirige vers une récession modérée selon l'enquête de S&P Global. En France, l'indice PMI des services s'est contracté plus qu'initialement anticipé. Total Energy signé un accord avec Air France KLM. Le groupe va fournir du carburant durable à la compagnie à partir de l'année prochaine et pendant 10 ans, principalement pour les vols au départ de la France et des Pays-Bas. Ce carburant sera produit dans des bioraffineries de Total Energy. Départ surprise du patron de Vodafone. Nick Reed démissionne sur fond de contre-performance du groupe. Le Britannique quittera son poste à la fin du mois. Il est remplacé en intérim par Margherita De La Vallée, qui gardera aussi ses fonctions actuelles de directrice financière. Et puis le patron de Nissan est à Paris cette semaine, selon Bloomberg. Il mène des discussions sur l'alliance avec Renault et les modalités de la participation du japonais à la restructuration de son partenaire français. Mais selon Reuters, il reste encore des désaccords, si bien que rien ne devrait être annoncé dans les prochains jours, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot, que l'on retrouve chaque heure pour suivre les évolutions de l'actualité économique. Et nous, tout de suite, on se concentre sur les marchés, sur la conjoncture, ces regards croisés.
BFM Business, BFM Patrimoine, regards croisés.
Autour de la table, Marc Toiti et Mathieu Loire. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric.
Merci
bonjour
d'être là. Marc Toiti pour le cabinet AC Défi et Mathieu Loire pour AXA IM. D'abord, regardons un petit peu nos indices. Les principaux, le Dow Jones, le CAC, ils ont repris une vingtaine de pourcents depuis leur plus bas de l'année. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était en octobre. Est-ce que vous êtes prêts, l'un l'autre, à assumer un passage en bull market, Mathieu ?
Alors non, moi sur ces niveaux-là, je suis vendeur. Donc le marché est allé très 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 vite à la hausse dans l'espoir d'un assouplissement du discours des banques centrales, un pivot, comme on dit sur la place, dans l'espoir que l'inflation pourrait baisser assez rapidement et finalement amener l'économie à faire un atterrissage en douceur. Tout ça, c'est quand même extrêmement optimiste, c'est extrêmement complaisant, et donc c'est la raison pour laquelle sur ces niveaux-là, moi je suis plutôt vendeur. Protéger les portefeuilles parce que on est dans un rebond qui est plutôt technique, un rebond de sentiment, mais qui s'inscrit toujours dans une tendance baissière, la tendance baissière qu'on avait depuis le début de l'année. Alors, si on regarde un petit peu on rentre un petit peu dans le détail. Donc, pivot de la réserve fédérale américaine, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui justifierait que la réserve fédérale américaine s'arrête maintenant de baisser les taux, voire même coupe les taux, parce que précédemment, ce qu'on appelait pivot des banques centrales, c'était lorsque les banques centrales coupaient les taux, justement, baissaient leurs taux directeurs pour essayer de soutenir l'activité, ce qui donnait effectivement un effet plancher au marché leur permettait de rebondir. Aujourd'hui, les conditions sont simplement pas réunies. On est encore à plus de 7% d'inflation aux États-Unis. On a eu un rapport sur l'emploi vendredi qui montre que les salaires, qui sont une composante essentielle dans l'inflation, au lieu de ralentir, se maintiennent à des niveaux qui sont très très élevés. On a plus de 5% en glissement annuel. C'est nettement supérieur au niveau de croissance des salaires qui est compatible avec une inflation à 2% sur le long terme pour la réserve fédérale américaine. On estime qu'il faudrait des salaires en croissance aux alentours de 3-3,5%. On n'y est pas. Le marché du travail est beaucoup trop tendu pour ça. Donc il est beaucoup trop tôt pour parler de pivot de la Fed. Or, et ça c'est une statistique, alors il n'y a pas beaucoup d'observations effectivement, mais les marchés n'ont jamais véritablement réussi à trouver un point plancher avant la dernière hausse de taux de la réserve fédérale américaine. Ça, c'est premièrement. Et le deuxième élément, c'est qu'est-ce que ça augure pour la croissance pour 2023 ?
Ouais, c'est ça.
Nous, notre scénario, c'est qu'on va partir en récession, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Et là encore, les marchés n'ont jamais trouvé un plancher en amont d'une récession. Jamais. Donc les conditions sont simplement pas réunies et on va avoir un glissement, certes, de rhétorique de l'inflation vers la croissance, mais justement, ouais, cette crainte sur la croissance devrait à un moment donné mettre sous pression les marchés.
Marc,
je suis embêté parce que je suis entièrement d'accord. Finalement, c'est le discours que j'annonce depuis quelques temps. J'avais rappelé ici même une sorte de range, d'intervalle sur le CAC 40 entre 5005 et 6005. C'est vrai que dès qu'on dépasse les 6005, ça devient effectivement un signal de vente assez net. Alors pourquoi ? Parce que, alors effectivement, les marchés, je donnais l'image, c'est un peu comme des enfants. C'est-à-dire, on leur donne des bonbons, ils sont contents. C'est-à-dire, en fait, la réserve fédérale, on dit voilà, l'inflation baisse un petit peu. Vous l'avez bien dit, elle est quand même sur des sommets pas historiques, mais des plus hauts depuis les années 80 quand même. C'est 7,5%. 7,7%, c'est plus 8. Dans la zone euro, on est toujours autour des 10% d'inflation, comme des niveaux extrêmement élevés. Alors ça baisse, évidemment, les arbres ne montent pas au ciel, mais ça va remonter. C'est-à-dire que globalement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, que sur le pétrole, ou également si on prend le cas de la France, vous savez que beaucoup d'entreprises négocient leurs tarifs à l'année. Donc c'est-à-dire que la hausse des coûts de production.
Ils vont l'avoir en janvier.
Voilà, va apparaître début 2023. Donc c'est là qu'on va voir le gros de l'inflation. Donc on le voit bien, qu'il y ait effectivement des mesures, boucliers tarifaires, etc. Finalement, l'inflation arrive. On ne peut pas éviter l'inévitable. Et puis surtout, l'important, c'est que oui, alors on donne des bonbons, mais les bonbons, ça donne des caries. C'est ce qu'oublient effectivement les marchés. C'est que, clairement, aujourd'hui, le drame, c'est quoi ? Normalement, les marchés sont censés avant tout représenter, valoriser des profits à venir. Or, on voit encore des chiffres assez incroyables, des enquêtes des directeurs d'achat dans la zone euro, en France, un peu partout. On voit que c'est en train de s'effondrer dans l'industrie, dans les services. Donc, il y a bien une récession. Donc, s'il y a une récession, c'est-à-dire qu'il y a moins de chiffre d'affaires, donc moins de profits. Donc, mécaniquement, les marchés ne peuvent pas valoriser des pertes. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils doivent effectivement repartir à la baisse. Je pense qu'on va retrouver un bear market assez rapidement. Alors après, bien sûr, il y a toujours des bonnes nouvelles possibles. La fin de la guerre en Ukraine, etc. Enfin bon, sauf que là, on voit avec toutes les tensions et les mesures qu'on prend contre la Russie, etc. Bon, est-ce qu'il va trouver une solution ? J'espère, on l'espère tous, bien entendu. Mais ce qui veut dire qu'on a quand même une situation où les marchés vont repartir à la baisse pour ensuite remonter. Donc je maintiens cet intervalle.
Donc, pas de bull market, 40.
Non, mais enfin, bon, encore une fois, c'est la fin d'année, donc certains auraient envie de terminer l'année sur, je dirais, une note positive. Mais c'est clair qu'on a quand même pas mal de signaux inquiétants, comme encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que les marchés ne veulent pas voir ça. Ils veulent voir effectivement l'inflation qui baisse un petit peu, l'arrêt de la hausse des taux, mais les taux continuent quand même d'augmenter. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. Et puis, bon, bien sûr, les obligations d'État, où les taux d'intérêt vont également augmenter.
Vous avez rapidement évoqué effectivement le côté américain, l'emploi, etc. Et là, on a eu, entre les bonbons et la réalité, quand même un grand écart. Parce qu'on avait Jerome Powell qui nous avait quasiment promis un pas de 50 et probablement après des pas de 25. Et puis, le chiffre de l'emploi américain qui est venu un petit peu écrouler tout ça, non ? Est-ce que les 50 points de base de la Fed, mercredi, sont remis en question ?
Alors non, mercredi, 50 points de base, je pense que c'est done deal, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la réserve fédérale américaine a communiqué de façon aussi claire au marché, donc sur 50 points de base, on les voit mal faire volte-face et partir sur à nouveau 75. Donc là, je pense que les 50 sont déjà acquis.
Donc là-dessus, le chiffre de l'emploi américain ne change rien ?
Non, ça change absolument rien. Bon. Par contre, et c'est là où c'est important d'écouter ce que dit Jerome Powell nous dit on va monter un peu moins vite, mais on va regarder ce qui se passe sur l'économie. Hein, on va se laisser le temps de regarder ce qui se passe sur l'économie. On peut très bien avoir un taux terminal, c'est-à-dire en fait le taux maximal auquel la Fed arrive sur ses taux directeurs à 5%, mais on peut aller plus haut. Ça, c'est une possibilité et les membres du FOMC, Jerome Powell en tête, n'ont jamais exclu justement cette possibilité-là. Alors d'ailleurs, ce week-end, notre ami Larry Summers, qui avait quand même relativement bien vu tous ces phénomènes inflationnistes, plus les taux directeurs, etc., disait, mais les taux directeurs, ils peuvent potentiellement monter à 6%. Je veux dire, si les données, notamment sur le marché de l'emploi, ne montrent pas de décélération et de refroidissement sur la croissance des salaires, on est dans une phase où on peut être à soit 5%, soit 6%. Donc, c'est ça, finalement, que le marché, pour l'instant, n'entend pas, puisque lorsqu'on regarde ce qu'il y a dans les prix de marché aujourd'hui, le taux terminal qui est dans les prix de marché, c'est quelque chose qui se balade entre 4,80, 4,90, donc c'est en dessous des 5%. Et ça va être intéressant, puisque là, on a la semaine prochaine, ça va être une semaine très chargée. Ça passe ou ça casse, quoi. Donc, le 13, on a les chiffres d'inflation aux États-Unis, et le 14, le meeting de la Fed, où elle va se prononcer justement sur ces fameux 50 points de base. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder justement cet enchaînement. Est-ce que l'inflation continue à surprendre un petit peu à la baisse ou pas ? Et puis derrière, ce que va nous dire le FOMC, notamment les projections de taux, puisqu'ils vont publier donc leurs projections de taux directeurs sur notamment ce taux terminal. Il se pourrait très bien, à la lumière justement des chiffres de l'emploi, qu'ils nous mettent le taux terminal, c'est-à-dire le taux maximum auquel on arriverait sur ce cycle-là, plus haut que ce que le marché attend, avec un discours donc résolument, ce sera plus haut et pour plus longtemps. Auquel cas, on pourrait avoir un début de correction de marché.
Vous voyez les choses. Je trouve un petit point où on est un peu moins d'accord. Effectivement, c'est-à-dire que, ouais, non, c'est important parce que je pense quand même qu'on a quand même une récession aux États-Unis assez dramatique. C'est-à-dire qu'on, on a déjà eu la récession d'ailleurs. C'est-à-dire on a eu deux trimestres consécutifs de baisse du PIB au premier semestre. Donc il y a eu déjà une récession aux États-Unis, un petit répit au troisième trimestre. Et là, si on voit les indicateurs avancés, donc des directeurs d'achat ou même l'indice de confiance des ménages de Conference Board, c'est en train de s'effondrer. Donc là, est-ce que la Réserve fédérale va pouvoir continuer d'aller? Moi, je suis sur les
jusqu'à
fins,
quelle justement alors, jusqu'à parce que que les banques centrales veulent y faire mal à l'économie pour limiter l'inflation, c'est presque, c'est assumé, ok. Mais jusqu'où elles peuvent faire mal sans que ce soit rédhibitoire pour l'économie?
C'est vrai que la clé, c'est le marché du travail. Donc, tant qu'on a un taux de chômage à 3,7%, que les salaires augmentent de plus de 5% par an, c'est vrai que la Réserve fédérale se dit, bon, oui, le marché du travail va bien. Mais parce qu'on a également un phénomène, comme on le sait très bien, de pénurie de main-d'œuvre un petit peu partout aux États-Unis. Oui, bon. Et c'est là où c'est complètement fou. On voit les chiffres de la productivité. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas de croissance, on crée des emplois aux États-Unis massivement même. Donc c'est assez incroyable. On n'avait pas l'habitude de ça. Donc simplement, rappelons-nous qu'il y a toujours un décalage dans le temps entre l'activité économique et l'emploi. C'est-à-dire que l'emploi réagit avec à peu près 6 mois de décalage, surtout chez nous, mais aux États-Unis, peut-être, chez nous, c'est 9 mois, 6 mois aux États-Unis. Donc, ça veut dire que la baisse du marché du travail aura lieu plutôt au printemps prochain. Donc, moi, je pense que la Réserve fédérale, à ce moment-là, en espérant bien sûr que les prix des matières premières vont arrêter de flamber, on pourrait avoir peut-être une petite inflexion. Moi, je reste pour l'instant sur effectivement les 5% de taux d'intérêt. Alors après, sinon, elle prend le risque d'aller beaucoup trop loin, c'est-à-dire effectivement d'aggraver cette récession. Et là, on retombe sur le phénomène effectivement de l'erreur des politiques monétaires de 2021. Je l'avais annoncé, j'étais l'après-midi à le dire, qu'il y avait effectivement ce risque d'inflationniste qui arrivait dès 2021, avant bien sûr la guerre en Ukraine, mais on l'a oublié. D'ailleurs, la Réserve fédérale américaine a fait son mea culpa dès il y a un an, à peu près novembre 2021, en disant, on s'est trompé, maintenant on va commencer à réagir. Ce qui est effectivement un peu tard. Donc on a laissé l'inflation s'installer, ce qui veut dire que pour l'inverser, c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est ce qui fait que la Réserve fédérale peut bien sûr aller au-delà, mais là, elle cassera l'activité économique.
D'accord, mais le au-delà, ça va jusqu'où? Parce que jusqu'à présent, on disait 4,5, 5. Depuis la semaine dernière, on dit au-dessus de 5. Il y a une fourchette de Bullard, c'est ça?
Si on regarde ce qu'on appelle le taux Taylor, il y a le taux Taylor aux États-Unis, c'est-à-dire qui regarde l'inflation et la croissance économique. Donc si on reste sur une croissance économique aux États-Unis autour des entre 1,5 et 2, donc c'est quand même pas mal, et que l'inflation reste autour des 6,5, ça veut dire qu'on pourrait effectivement monter à 5,50 sur le taux monétaire optimal, entre guillemets. Mais si par contre la récession s'aggrave et que là on a une baisse du PIB, là le taux Taylor va repartir vers les 5, voire même un petit peu moins. Parce que vous savez que ce taux pondère l'inflation, les écarts d'inflation par rapport à l'objectif d'inflation et les écarts de croissance par rapport à une croissance soutenable, on va dire, aux États-Unis. Et là, si la récession est grave, la Réserve fédérale américaine, elle ne pourra pas continuer. Autant dans la zone euro, nous, on n'a pas le choix parce qu'on est quand même très loin de la Réserve fédérale, on doit encore continuer à monter les taux. D'accord. Autant qu'aux États-Unis, elle risque de se calmer.
Justement, le baromètre, ça va donc être encore une fois l'inflation. Quelles sont vos anticipations chez AXA-IM en termes d'inflation?
Alors, on est dans un scénario où l'inflation continue à décroître, hein, parce qu'on a des effets de base que tout le monde a bien identifié, notamment sur les prix d'énergie.
Mais à quel rythme,
Alors, sur l'inflation, incluant tous les éléments, hein, tous les compartiments, notamment les plus volatiles, ça risque de baisser quand même assez rapidement, parce qu'on a ces effets de base, notamment sur les prix de l'énergie. Hein. Il suffit de regarder le prix à la pompe aux États-Unis, ça a baissé extraordinairement rapidement, et donc ça va générer une pression sur l'inflation au global. Sur l'inflation sous-jacente, on est plutôt dans une phase de plateau avec une décrue qui sera beaucoup plus lente. Pourquoi? Parce que parmi les composantes de l'inflation sous-jacente, on a une grosse composante salaire. 70% des coûts aux États-Unis dans les entreprises, c'est des coûts salariaux. Si les salaires ne baissent pas, l'inflation sous-jacente, donc l'inflation cœur, aura du mal à baisser. Donc on est dans ce scénario où on a même un risque finalement que l'inflation sous-jacente décroît, mais elle décroît et au bout d'un moment, elle finit par caler à 4%. C'est-à-dire qu'on est clairement pas encore dans l'intervalle qui est l'intervalle de 2% en moyenne sur très longue période, qui est la cible de la Réserve fédérale américaine. Donc dans cet environnement-là, difficile de voir comment la Fed pourrait commencer à parler de pivot. Enfin, ça paraît complètement ahurissant. Alors, après, nous, on a un scénario qui n'est pas d'une croissance sévère aux États-Unis. Hein. Pourquoi? Parce que, alors, je reviens pas sur le premier semestre de cette année, parce qu'il y avait quand même un élément technique, on l'a vu, une énorme contribution négative du commerce extérieur. Les moteurs de la croissance intrinsèque aux US, c'est-à-dire notamment la demande domestique, étaient hyper robustes. Et en fait, elle reste quand même relativement robuste. Alors, on voit que ça cale dans certains segments, notamment dans l'investissement, etc. Mais la consommation se maintient plutôt pas mal, hein, étant donné l'inflation qu'on a. Enfin, c'est juste assez sidérant de voir que l'inflation en termes réels arrive à se maintenir à des niveaux qui sont tout à fait décents. Bon, donc on a quand même un effet de résistance. Il va falloir y aller, il va falloir cogner quand même. Hein. C'est pour ça que Powell ne s'engage absolument pas hein, sur un pivot quelconque. Il parle de continuer à monter les taux et après de les stabiliser, pas du tout de les couper. Et ça, pour l'instant, le marché ne l'entend pas. Il faut quand même regarder un petit peu ce qu'il y a dans les prix de marché. Bon, taux terminal, je vous l'ai dit, à 4,9%. Mais fin 2023, le marché a déjà anticipé plus de deux baisses de taux de la réserve, des taux de la réserve fédérale américaine, là où la Fed nous dit absolument pas, on maintiendra nos taux. Donc il y a comme ça, donc du coup, une espèce de d'incohérence entre le pricing de marché et ce que nous raconte la réserve fédérale américaine. Au bout d'un moment, l'un ou l'autre vont devoir craquer. On verra ce que ce sera, mais nous, on pense que c'est plutôt le marché.
Vos anticipations d'inflation, ça donne quoi?
Oui, justement, sur l'inflation, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'inflation conjoncturelle, donc qui va baisser effectivement mécaniquement, puisqu'on a des effets de base positive. Alors attention quand même à ce que j'évoquais tout à l'heure. Début 2023, il y a quand même des tarifs qui vont augmenter un petit peu partout, notamment en France et en Europe. Donc on risque d'avoir un petit boost, une remontée de l'inflation un petit peu partout. Donc ça serait quand même à surveiller. Et là, évidemment, ça va faire peur. Mais globalement, on est sur une inflation qui va progressivement revenir vers 4%, voire un peu moins, d'ici la fin 2023. Par contre, après, il y a effectivement l'inflation structurelle. Bon, au-delà de donc l'inflation hors énergie et produits alimentaires, on oublie que il y a énormément aujourd'hui de composantes de l'inflation. Par exemple, tout ce qui est transition énergétique, ça revêt des coûts, donc ça va générer une augmentation durable de l'inflation. Le mouvement de démondialisation, là aussi, ça va générer, une augmentation de l'inflation. Ce qui se passe en Chine aujourd'hui, on a une récession. Alors, on libère un peu, mais c'est quand même, la Chine est quand même bien bloquée. On dit, il y aura une récession en Chine, donc tout va bien. Oui, mais attention, ça va quand même alimenter des pénuries. Donc ça va là aussi alimenter l'inflation. Donc l'inflation, je suis d'accord, va rester sur des niveaux élevés, notamment en Europe. Je pense même encore plus qu'aux États-Unis. Hein, d'ailleurs, elle est déjà, c'est déjà le cas. Mm-hmm. Et donc, parce que on n'a pas pris justement cette inflation à bras le corps. Donc on va rester sur une inflation élevée, avec, ça aussi, on l'oublie, des risques sociaux et sociétaux, notamment en Europe, qui vont être très importants, je pense, parce qu'on n'est pas du tout préparé à cela. Et c'est là, je pense, le plus important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les marchés, pourquoi ils surréagissent par rapport à ça? Ils se disent, l'inflation, ça ne peut pas durer. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de forte inflation depuis les années 80. Donc, tous les opérateurs de marché aujourd'hui, les investisseurs, même les présidents, certains, n'ont pas connu la forte inflation. Même nous, on était très jeunes, hein, Cédric, à 10%, à 14% en France, dans les années 80. Donc, ce qui veut dire que, attention, comme on n'est pas habitué à cela, on dit, ça ne peut pas arriver une inflation forte et durable. Mais si, c'est ce qui est en train de se dessiner pour 2024. Et donc, c'est vrai que le marché va surréagir parce que l'inflation va un peu baisser. Je pense que la semaine prochaine, on aura une baisse de l'inflation américaine. Pareil, le marché, déjà dès vendredi, il y aura les prix de la production qui, là aussi, on a une baisse du glissement annuel. Ils vont être contents, etc. Les fameux bonbons, les confiseries qu'on donne. Mais ils oublient l'essentiel. C'est que derrière, l'inflation va rester élevée et qu'il y aura une récession et que les marchés repartiront.
Et il n'y a pas de risque que l'inflation ne baisse pas, entre guillemets, aussi rapidement que prévu?
Ah si, évidemment. Il y a toujours un risque qu'on ait sous-estimé justement ce côté extrêmement visqueux de l'inflation sous-jacente, sur des effets, encore une fois, de tension sur le marché du travail, etc. Alors après, il y a tout un tas de scénarios où on peut imaginer effectivement les prix des matières repartir à la hausse, les matières premières. Je pense notamment au gaz en Europe. Hein. C'est vrai qu'ils ont beaucoup baissé sur un effet de stock, hein, puisqu'on a réussi à remplir intégralement les stocks. Mais on sait, les stocks de gaz en Europe, ça couvre 20% des besoins annuels. Donc à un moment donné, le temps continue à être très très froid, il va falloir qu'on pompe dans les stocks. Et là, on l'a vu, hein, ça crée des petites tensions. On était à 100 € le mégawattheure il n'y a pas si longtemps, on est reparti autour de 130, 140. Donc l'inflation, il y a toujours un certain nombre de surprises. Aujourd'hui, ce qu'il y a dans les prix de marché, c'est un scénario qui est très rose. Hein. C'est-à-dire que toutes les étoiles sont alignées, donc prix du gaz qui baisse, l'inflation effectivement qui donne des signes qu'on a vu un pic, notamment aux États-Unis, mais aussi potentiellement d'ailleurs en Europe. La Chine qui réouvre progressivement, en tout cas de façon un peu plus rapide et agressive que ce qu'on pensait, hein, sous la pression de la rue. Donc tout ça, c'est un certain nombre de signaux positifs qui sont pris argent comptant par le marché, mais qui oublient du coup tous les éléments négatifs qui peuvent survenir et des chocs exogènes qui peuvent effectivement faire dérailler ça de façon assez importante.
Oui. Il y a un dernier point très important, alors qui est complètement oublié, c'est le marché obligataire. C'est-à-dire qu'effectivement, la dette publique a disparu. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Donc bon, alors effectivement les taux d'intérêt des obligations d'État ont bien augmenté, tant mieux, on l'avait annoncé, mais là ils rebaissent un petit peu et surtout on a l'impression que finalement la dette, le déficit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais non, ils sont toujours là et surtout on continue de les augmenter. La semaine dernière il y a eu une alerte du FMI à l'égard de la France, enfin un avertissement, c'est quand même très grave. Dans les prévisions, la France est le dernier pays, même en termes de déficit, derrière l'Italie, derrière l'Espagne, etc. Et ça a eu aucun impact, c'est-à-dire ou quasiment. Donc on se dit mais non, donc on on ne veut pas voir effectivement la réalité en face, on reste dans ce déni de réalité, et quand on va revenir dans cette réalité justement où on a des dettes publiques qui continuent d'exploser, les taux longs vont augmenter, et si les taux longs continuent d'augmenter, quelle que soit l'inflation, j'ai envie de dire, ou la croissance, alors à ce moment-là, les marchés boursiers, évidemment, seront un petit peu déprimés.
Voilà donc pour l'énorme thème qui préoccupe bien évidemment les marchés. Il y avait un autre thème, enfin il y a un autre thème, c'est la question chinoise. Est-ce que les petits pas, un peu sur l'IMO, un peu sur le sanitaire, puis un petit peu plus sur le sanitaire, avec notamment les Covidés qui devraient pouvoir s'isoler à domicile, est-ce que tout ça va dans le bon sens et est-ce que ça vous rassure finalement sur les intentions de la Chine ?
Alors, à court terme, c'est rassurant. À moyen terme, pas vraiment. La perspective qu'on a à moyen terme, moyen-long terme, elle est quand même assez inquiétante sur la Chine. Mais bon, c'est vrai qu'à court terme, il y a certaines petites lumières qui s'allument dans le tunnel. Hein. Je ne sais pas si on a vu complètement le bout du tunnel, mais certaines petites lumières. Donc, stratégie de rouverture, c'est accéléré, hein, c'est un peu bousculé parce que il y a une pression de la rue. Bon, et il semblerait, hein, ça c'est un peu les échos qu'on a depuis la Chine, hein, des personnes avec lesquelles on discute en Chine, il y a des craintes énormes qu'on puisse revivre un deuxième Tiananmen en Chine avec justement des discours ouvertement anti-pouvoir dans la rue, hein, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis extraordinairement longtemps. Donc on sent qu'il y a une colère qui gronde et donc il y a une accélération du timing. Est-ce que la Chine est prête pour ça ? Ça, c'est la vraie question. Parce que lorsqu'on regarde les taux de vaccination, autant l'année dernière, ça a beaucoup vacciné en Chine, autant cette année, en début d'année, ça allait encore, mais ça s'est complètement effondré. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'on a une immunité collective en Chine, via les vaccins ou via les contaminations, qui permettent une réouverture rapide. Ça, c'est un pari quand même qui est assez risqué. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Mais ils vont devoir réaccélérer très, très fortement sur les vaccins pour pouvoir justement réussir cette réouverture. Donc, à voir. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça envoie un signal qui est plutôt positif. Après, sur les interventions, donc, que ce soit sur le marché immobilier, essayer de relancer un petit peu le crédit. Mais bon, tout ça, un petit peu du bout des doigts quand même. Hein. On n'est pas en train de soutenir à bras le corps. On le sait qu'il y avait une triple bulle en Chine, notamment immobilière et du crédit. Et donc, la crainte de la Chine, c'est qu'en remettant un peu le doigt dans la prise, on se retrouve à avoir à nouveau cette bulle qui repart et donc avec des excès qui oblitéreraient la croissance à moyen terme. Donc, ouais. Nous, on ne pense pas qu'il y aura effectivement une ouverture massive de ce point de vue-là, ou en tout cas un soutien massif.
Une minute pour finir sur la Chine.
Donc, la Chine, il y a une force importante, c'est qu'elle a ce que j'appelle des airbags, c'est-à-dire elle a toujours 3000 milliards de dollars de réserves de change. Elle peut augmenter son endettement, etc. Ça, c'est le côté positif. Moi, je trouve que ce qui s'est passé dernièrement est quand même très négatif pour la Chine, pour l'avenir de la Chine. Tant mieux pour les populations. On est un peu comme dans la crise asiatique de 97. Au moment où on s'est dit, ça peut pas tenir. Il faut bien qu'on augmente les salaires, qu'on laisse les gens un peu plus libres, etc. Et ça a commencé comme ça, la crise asiatique de 97. Ça peut être pareil pour la Chine aujourd'hui. Et le pays qui en profite le plus, c'est l'Inde. Regardez les indicateurs des directeurs d'achat, ça fait à peu près 5-6 mois que l'Inde est la locomotive de la croissance mondiale, devant la Chine. Donc elle est en train de remplacer la Chine, et donc aujourd'hui peut avoir des tensions, je pense, sociétales également en Chine. Ça serait une bonne nouvelle pour le peuple chinois, va-t-on dire. Et donc là, après, est-ce que la Chine ne va pas avoir envie justement de déraper, de faire quelque chose à Taïwan, etc. Donc ça aussi, je pense qu'on sous-estime le risque chinois. Les Chinois ont de quoi résister, mais là, j'ai l'impression qu'on a été un petit peu trop loin. Et donc, comme les arbres ne montent pas au ciel, qui risquent d'avoir effectivement... Et puis, dernier point, je veux dire, pourquoi on a fait effectivement, après ce coronavirus, qui vient quand même de Chine, ne l'oublions pas, moi j'étais persuadé qu'on allait un petit peu arrêter d'acheter chinois. Et on continue d'acheter massivement chinois. La Chine fait des excédents commerciaux records. Mm-hmm. Là aussi, ça va peut-être commencer à agir dans nos esprits en disant, on ne peut plus continuer comme ça, finalement, d'accréditer une telle dictature. On traite la population de façon assez incroyable. Donc, peut-être que ça va calmer la Chine, mais attention, si on achète moins chinois, il y aura quand même de l'inflation qui va augmenter. On revient sur le thème de tout à l'heure, où l'inflation va quand même rester élevée. Et le grand gagnant, je pense, ça sera l'Inde, cette situation économique.
Merci à tous les deux d'avoir participé à Regard Croisé ce matin. Donc Mathieu Loire pour AXA IM, Marc Touati, le cabinet à ses défis, et donc Reset 2 que l'on trouve dans toutes les bonnes boucheries.
Oui, partout. Aussi, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi si le boucher est sympa.
Merci Marc. Dans un instant, un détour par les marchés. C'est Stéphane Sauduteil qui nous attend chez Technibourse. N'oubliez pas non plus les replays que vous pourrez trouver sur notre site ou sur vos plateformes préférées.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
On
11h, passé de 31 minutes, on file tout de suite rejoindre Technibourse où nous attend Stéphane Saudutet. Et rebonjour Stéphane, merci de nous accompagner ce matin pour prendre le pouls de poursuivre cette séance. Et ce CAC 40, bah, qui pour le moment reste ancré en territoire négatif, on perd 0,3%, 6720 points. Qu'est-ce que vous disent vos graphiques ?
On n'est pas loin de l'encéphalogramme plat hein, depuis ce matin. C'est vrai qu'on n'a pas des variations très importantes malgré l'assouplissement des règles sanitaires en Chine. Bon, le PMI des services un petit peu en dessous des attentes en Europe a peut-être atténué ces nouvelles favorables en provenance de Chine. C'est un marché morne, calme, qui évolue toujours dans les mêmes limites. On voit qu'il est très sensible au futur américain. Hein. Quand on regarde les futurs américains, on devine ce qui va se passer sur le CAC 40. Les futurs américains ne savent pas non plus sur quel pied danser. Hein. Un coup on monte un petit peu, un coup on baisse un peu plus. Donc c'est un début de semaine vraiment tristouné, on pourrait dire, hein, comme le temps. Dehors, et c'est vrai que on aurait pu s'attendre à une baisse peut-être un petit peu plus importante vendredi avec les chiffres de l'emploi qui étaient nettement supérieurs aux attentes. Et puis les taux d'intérêt se sont tendus, mais se sont redétendus dans la foulée. Donc finalement, on voit ce marché toujours très très résilient, qui tient impeccablement bien sur les 6700 points. C'est ce niveau, on peut dire 6690, 6700 points qu'il faudra bien entendu préserver. Passer en dessous affaiblirait un petit peu ce mouvement hein, qui est en place depuis plus de 2 mois maintenant, avec un risque quand même réel et sérieux de chuter un petit peu plus profondément sur les 6550, 6450 points. Mais on a quand même du mal à voir quel sera le catalyseur susceptible de faire perdre 200 points au CAC 40, comme on ne voit pas le catalyseur susceptible de lui faire gagner 200 ou 250 points si on parvenait à passer au-dessus des 6750, 6800 points avec les 7000 points en ligne de mire. Donc là, on cherche un petit peu les statistiques qui pourraient agiter un petit peu le marché. Et puis cette semaine, on est quand même assez pauvre en statistiques. On n'a que l'ISM des services cet après-midi, et puis l'indice des prix à la production vendredi. Donc je ne suis pas sûr qu'avec ces chiffres seuls, on soit capable de casser ces limites. Faudra peut-être attendre l'inflation américaine pour le mois de novembre, la semaine prochaine. Moi, je pense qu'elle sera encore élevée parce que quand on regarde l'indice CRB des matières premières, eh bien, il reste quand même sur des altitudes très très élevées. Et je pense que sans une baisse franche des matières premières, l'inflation aura du mal quand même à refluer. C'est l'hypothèse hein, que je développe sur votre antenne depuis des semaines et des semaines maintenant. Sinon, on a quand même, quand on regarde le CAC 40, on a quand même 2/3 de valeur en baisse, donc il y a quand même cette petite pression baissière. Alors, est-ce qu'elle sera suffisante pour nous faire passer sous les 6700 points? À l'heure où on parle, j'en doute un petit peu. On a aussi sur les marchés américains ce fort sentiment haussier. Et on voit qu'on est contre des niveaux de résistance très importants sur le Dow Jones 34 400 et sur le Nasdaq 112 000 points. Donc là aussi, hein, ceci explique des problèmes hein, pour monter sur des niveaux supérieurs dans l'immédiat.
Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Sauduteil qui nous accompagnait ce matin pour suivre les pulsations techniques de cette tendance parisienne, marché qui donc pour le moment continue à décroître légèrement, moins 0,29%, 6722 points pour le CAC.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Raphaël Thuin est avec nous, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour Tikeo Capital, on parle ce matin des fonds à échéance. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors peut-être qu'on peut revenir à l'origine et à la signification première de ce que c'est qu'une obligation. Une obligation, c'est un instrument qui va payer des coupons durant sa vie et à une échéance fixe, une maturité. Le fonds daté, le fonds à échéance, c'est l'équivalent, mais avec une collection d'obligations de la sorte. Donc, vous allez avoir une collection d'obligations qui vont payer ces coupons au fur et à mesure de leur vie et vont avoir une échéance commune, par exemple, disons 2025, date à laquelle vous récupérez, en théorie, votre capital. Tout ça est vrai tant qu'aucun défaut sur les émetteurs n'intervient.
Évidemment. On est d'accord. Comment ça fonctionne exactement ?
Alors concrètement, les fonds datés ont traditionnellement, alors il y a des variantes, mais traditionnellement une période de commercialisation restreinte pendant laquelle vous pouvez investir librement, entrer et d'ailleurs sortir aussi. Et puis au bout de quelques mois, traditionnellement là encore, on va figer l'actif, figer le passif et mettre des pénalités d'entrée et de sortie pour les investisseurs. Pourquoi on fait ça ? L'idée étant de dire, une fois que les obligations sont dans le portefeuille, on va tout simplement rentrer dans une stratégie de portage, collecter les coupons jusqu'à leur maturité et donc de ce fait donner de la visibilité aux investisseurs en termes de rendement espéré sur l'investissement.
Quel est l'intérêt finalement de se pencher sur ce type d'investissement ? L'intérêt par exemple pour monsieur et madame tout le monde, pour nos auditeurs, pour les investisseurs ?
Alors l'intérêt évident cette année, c'est qu'on sort, ou nous sommes dans un krach obligataire, je pense qu'on peut parler de krach cette année. Certains indices obligataires ont leur pire performance depuis 40 ans. Et donc d'un univers où les taux étaient soit proches de zéro, soit négatifs, on est arrivé dans un univers où cette fois-ci on a du rendement face au risque. Sur l'investment grade, donc les compagnies les mieux notées, on va parler de 3 à 4% de rendement. Sur le haut rendement, sur la yield, on est plutôt à 7-8%.
Mais avec du risque.
Avec du risque, mais avec cette fois-ci une rémunération face au risque, qui n'était pas toujours vrai les années précédentes.
Exact.
Donc ça, c'est une façon de se réexposer. Et donc, on se réexpose à travers ce type de format avec une échéance fixe, une visibilité sur la durée de l'investissement d'une part, et puis une certaine visibilité sur le rendement espéré d'autre part. Lorsque vous investissez sur des obligations investment grade de très bonne qualité où le risque de défaut est très faible, voire nul, effectivement, vous allez avoir une visibilité maximale sur le rendement espéré jusqu'à échéance de votre fonds.
Alors, je vous taquinais entre guillemets sur le risque, mais venons-en, il y a quand même des risques potentiels sur ce type d'investissement.
Absolument, il y a des risques potentiels. Le premier risque dans une stratégie de portage comme celle-ci, ça va être le risque de défaut.
Si, en clair, une faillite, enfin voilà.
Absolument, si l'entreprise est amenée à ne pas rembourser cette dette, ça va effectivement affecter votre performance à la baisse et le rendement que vous aviez modélisé en entrée ne se réalisera pas en sortie. Donc ce risque de défaut, il est important sur les secteurs haut rendement. Il y a des fonds datés haut rendement, donc il faut garder ça en tête et ça reste le risque principal. Il y a aussi certains fonds, et c'est pour ça que c'est important de lever le capot sur chacune de ces stratégies, chacun de ces lancements de fonds, certains fonds qui font effectivement des stratégies au rendement, où cette fois-ci, les obligations peuvent être rappelables. Donc là, arrêtons-nous un petit instant là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Certaines obligations, surtout dans le haut rendement, ont la possibilité d'être rappelées par l'émetteur en amont de la maturité, en amont de l'échéance finale. Et ça va affecter votre rendement potentiel, ça va mettre de l'incertitude. Si au lieu d'avoir une obligation qui mature en 2025, elle est rappelée en 2023, vous vous retrouvez avec une incertitude sur le fait que vous deviez redéployer à des niveaux qui sont pour l'instant inconnus. Donc ça, c'est une deuxième risque, c'est ce qu'on va appeler le risque d'extension, le risque de rappel de ces obligations. Et puis évidemment, il y a le risque inhérent à tout investissement financier, le risque de mark-to-market, de marquage au marché, qui est moins sensible dans le cas d'un fonds qui va être commercialisé seulement pour une courte période et ensuite figé, mais qui reste
bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte justement, l'avenir de ces fonds, le rendement, enfin voilà, comment on fait son choix?
Alors c'est important effectivement de regarder ce qu'il y a dans les fonds. Fonds datés, c'est un mot fourre-tout qui en fait inclut toute une série de stratégies. Concrètement aujourd'hui, si vous faites un fonds daté raisonnablement court avec des signatures de bonne qualité, investment grade, votre rendement embarqué ne sera pas très élevé. Il sera peut-être de 3%, 3,5%, 4% maximum. Donc concrètement, ce que la place a fait, c'est d'offrir des stratégies qui avaient un petit rendement additionnel avec un petit risque additionnel. Et donc ce petit risque additionnel, il faut aussi bien l'analyser. La plupart des lancements récents ont été sur des segments haut rendement. Donc le haut rendement, ça veut dire des risques de défaut et des risques de rappel anticipés, premièrement. Une deuxième façon de remettre du jus un petit peu dans le fond et dans le rendement embarqué, c'est d'aller chercher plus de duration, donc de financer sur le long terme, sur des maturités type 2027, 28, 29. Deuxième façon. Mm-hmm. Troisième façon, ça a été notre choix chez Tikeo plus récemment, c'est de rajouter à un portefeuille de très bonne qualité investment grade, donc on l'a dit à 3-4% sur un horizon pas trop lointain, 2025, une touche, une poche de financière. Pourquoi les financières? Parce qu'elles ont beaucoup sous-performé cette année. Elles sont très décotées comparées à là où elles étaient ne serait-ce qu'il y a un an. Un moment où il nous semble que les fondamentaux du secteur sont très sains, avec des bilans robustes et une certaine visibilité sur les mois à venir dans un potentiel scénario de hausse des taux. Donc voilà, c'est une troisième façon. Dans tous les cas, c'est une certitude. Il faut regarder avec attention ce
qu'on contient. Il faut comprendre là où on met les pieds, quoi.
Exactement.
Finalement. Merci beaucoup Raphaël. Raphaël Thuin donc pour Tikeo Capital ce matin dans Idée de fonds. Le marché parisien lui reste en repli léger de 0,3%, 6722 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et chaque matin, toutes vos questions trouvent leur réponse. Et ce matin, c'est Christian Fontaine qui est avec nous. Prêt Christian ?
Prêt.
Pour la rédaction du Revenu, c'est Greg. Or bon, il a pas mal de... Enfin, c'est une question un peu à tiroir rallonge, Greg, parce que il a des poncifs un petit peu sur les marchés financiers et il voudrait qu'on lui donne notre avis. On entend parfois que la bourse est réservée aux plus fortunés. Est-ce vrai?
Bon, non, bien sûr que non, ce n'est pas vrai. C'était peut-être le cas il y a quelques décennies lorsque la bourse était effectivement réservée à la bonne société et qu'il y avait des tickets relativement importants. Aujourd'hui, notamment grâce au web, il y a des tas d'acteurs de Boursorama, Fortuneo, à Bourse Direct, en passant par De Giro, Itoro ou Trade Republic, qui ont contribué grâce à leurs offres à populariser le placement en action et notamment en réduisant les frais. Et puis tout récemment d'ailleurs, il y a des nouveaux acteurs, c'est Trade Republic qui propose un fractionnement d'actions, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter une action mais vous pouvez acheter des morceaux d'actions ou des morceaux d'ETF. Donc bien sûr que non, Greg, vous pouvez avoir accès à la bourse, tout le monde peut avoir accès à la bourse, quel que soit votre niveau de revenu, quel que soit votre niveau de patrimoine. Il faut, hein, la bourse fait encore peur aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, rappeler cette vérité première, c'est ce poncif de temps en temps, parce que malheureusement, certains auditeurs, téléspectateurs pensent encore que la bourse n'est pas forcément pour eux.
Il vaut mieux s'y connaître un peu et investir un minimum pour disposer d'un portefeuille diversifié.
Alors, mais ça, c'est un autre poncif. Donc, le premier poncif, il faut être riche pour investir en bourse. Deuxième poncif, il faut s'y connaître. Non, pas plus que pour un investissement immobilier. Si vous ne prenez pas un certain nombre de précautions lorsque vous achetez un studio, oui, vous allez au-devant de graves désillusions. Si vous n'optimisez ni le lieu et la qualité du produit, ni votre financement, ni la fiscalité à la sortie. Et je dirais qu'en bourse... L'idéal, l'important, c'est de commencer jeune avec des sommes relativement faibles. Pourquoi ? Parce que même si vous êtes, si d'ici quelques années vous allez être vous serez un cador peut-être de la bourse, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, de toute façon, au début, vous ferez des erreurs. Donc, autant faire des erreurs avec des montants relativement faibles et de monter progressivement en puissance avec votre niveau d'expertise. Voilà. Alors après ça, c'est vrai que vous allez acquérir le savoir-faire de gérer un compte.
On peut prendre un peu un exemple pour voir justement pour...
Un exemple, il n'y a pas aujourd'hui en France, si vous voulez, l'art de bien gérer son budget ou l'art de bien gérer ses placements ne s'apprend nulle part. Donc de toute façon, il faut l'apprendre soit en famille, soit vous l'apprenez en écoutant vos émissions favorites.
Oh, et ça, en lisant Le Revenu, tout de même.
Et en lisant Le Revenu, je vous remercie pour ce petit coup de pub que je n'ose plus faire. Mais oui, en lisant Le Revenu et l'ensemble de la presse patrimonial. Et donc, bien sûr, il faut un tout petit peu de technique, puisque, si vous voulez, les actions ne s'achètent pas dans le supermarché, il faut passer par l'intermédiaire d'une plateforme, accréditée. Et donc, il faut savoir choisir cette plateforme, il faut être capable de se projeter un minimum. Il n'y a pas que les frais, hein. La qualité de la plateforme de passage d'ordre est également très importante. Gérer un compte-titre, ce n'est pas réservé à quelques happy few. C'est, je dirais, aujourd'hui, plus important que jamais. Il y a une époque, si vous voulez, peu ou prou, bien placer son argent, c'était assez simple. Vous aviez un placement qui détrônait tous les autres. Ça s'appelait l'assurance vie en euros. C'était à la fois rentable, c'était disponible à tout moment et c'était peu imposé. Bon. Aujourd'hui, il faut encore avoir de l'assurance vie en euros, mais ce produit ne peut plus être la réponse à toutes vos problématiques d'épargnant. Et donc, compte tenu des conditions de marché aujourd'hui, si vous voulez gagner peu ou prou plus que l'inflation, vous êtes obligé de prendre un minimum de risque. Appelez un chat, vous êtes obligé d'investir une petite partie de votre épargne en bourse. L'immobilier aussi, mais la bourse est quand même sans doute moins chronophage et c'est un placement qui est beaucoup plus liquide. Il faut quand même le rappeler, on dit toujours il faut investir en bourse pour 5 ou 10 ans. Non. Vous pouvez, la bourse est un place, si vous, demain vous achetez une action ou un morceau d'action, le surlendemain vous pouvez le revendre. Simplement, effectivement, pour ne pas être obligé de revendre lorsque, si éventuellement les marchés baissent, il faut mieux se placer dans une position de long terme. Mais si vous détenez, imaginons d'ici quelques années, 100 euros en bourse, si vous devez récupérer 1, 2 ou 3 euros pour vous faire plaisir ou parce que vous avez un passage à vide, c'est toujours bien sûr possible. Simplement, il faut retirer en bas de marché ou uniquement une proportion relativement faible de votre investissement. Donc voilà, pour reprendre quelques poncifs, non, la bourse n'est pas réservée à une élite et non, la bourse n'est pas réservée aux experts.
Il nous dit aussi un peu, la bourse est un casino.
Non, la bourse, alors, si vous regardez les variations du CAC 40 au jour le jour, donc vous avez parfois l'impression que ces hausses ou ces baisses sont difficiles à expliquer. C'est vrai parce que la bourse, ça varie en fonction d'éléments techniques, les taux d'intérêt, la situation des entreprises, etc. Mais ça varie aussi en fonction d'éléments psychologiques. Donc oui, si vous essayez de faire du market timing, de ce qu'on appelle le day trading historiquement aux États-Unis, d'acheter le matin et de revendre le soir en espérant encaisser un gain, ça a marché une fois, deux fois, trois fois, mais les retours qu'on a donc lors des plateformes de professionnels montrent très très bien que 9 fois sur 10, au bout d'un certain temps, vous allez perdre votre chemise. Donc, la bourse, c'est un casino si vous agissez de la sorte, mais si vous achetez des belles valeurs françaises, des belles valeurs du CAC 40, donc alors des grandes familles françaises d'industriels et que vous les conservez en portefeuille pendant des années, vous profiterez de la tendance haussière de la bourse à long terme sans être victime de cette volatilité à court terme. La bourse est tout sauf un casino, mon cher. En tout cas, à condition d'agir avec méthode.
Voilà quelques éléments, Greg, sur vos interrogations. Bertrand vous écrit, il a 58 ans, la bourse lui fait peur et il souhaite transférer son PEA sur une assurance vie. Et il se demande s'il doit privilégier le vieux contrat qu'il possède ou en ouvrir un autre.
Alors, Bertrand, d'abord, il a 58 ans. Donc 58 ans, il s'approche de la retraite, c'est un âge charnière, c'est un âge où effectivement c'est intéressant à mettre à plat l'ensemble de ses placements et puis les mettre au service de sa retraite qui pointe le bout de son nez. Attention, là aussi, un poncif, il est généralement recommandé à la retraite de sécuriser l'ensemble de ses placements. Ça, c'était valable il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'à 60 ans, un cadre, lorsqu'il va prendre sa retraite, a une espérance de vie de 20, 25, 30 ans. Bon, 25 ans, environ 25 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il sécurise l'ensemble de ses placements vont lui rapporter, dans le meilleur des cas, 2%. Bon. Donc, ça veut dire qu'il va perdre, dans l'état actuel des choses, 4% de pouvoir d'achat par an. Sur une année, ça va, mais sur 10 ans, plus de 40% avec l'effet des intérêts composés, plus de 40% de pouvoir d'achat en moins. Donc, c'est insupportable. Donc, la veille de la retraite, comme Bertrand, on s'interroge sur ses placements. Éventuellement, on en sécurise une petite partie. Quoique, si on a besoin de piocher dans ses placements, car c'est aussi une nouveauté aujourd'hui, les jeunes retraités continuent à placer. Donc, bon, ça sera sans doute moins vrai demain avec la baisse du montant des retraites. Mais, donc, oui, mettre à plat ses placements à 58 ans, non, ne pas tout sécuriser, éviter d'une façon générale les grands phénomènes d'essuie-glace, donc alors, de passer la totalité de son placement du PEA vers l'assurance-vie ou de l'assurance-vie vers le PEA.
Donc, procéder par petites touches.
À petites touches, pourquoi pas sécuriser une partie de votre placement, Bertrand, mais en tout cas, loin, pas la totale. Alors, quel contrat d'assurance-vie choisir, Malin ? C'est une question qu'on nous pose souvent au revenu. En gros, le choix, c'est quoi ? C'est le choix entre un vieux nanar qui rapporte peu, mais qui profite d'un régime fiscal attrayant, ou le choix d'une Formule 1, mais avec une fiscalité un peu plus pénalisante. Mais en fait, sauf
pendant 8 ans, mais
pendant 8 ans. Alors, sauf cas un peu après 8 ans, surtout.
Non, mais c'est pendant les 8 premières années.
Pendant les 8 premières années que la fiscalité est un peu moins favorable. Mais il peut y avoir d'autres avantages, notamment en cas de décès des vieux contrats, etc. Donc, sauf pour les particuliers. Qui ont des patrimoines très très significatifs. Donc là, bien sûr, il ne faut pas, je dirais, clôturer un vieux contrat. Au revenu, on remarque que généralement, les particuliers ont tendance à conserver trop des vieux contrats qui rapportent peu, alors que parfois, il faut savoir switcher sur des produits plus modernes et plus performants. La question générale, alors tout dépend le montant de son patrimoine, il faut être diversifié mais pas non plus trop égrené son patrimoine. Oui, d'avoir plusieurs placements, donc dois-je privilégier mon vieux contrat ou en ouvrir un autre? Privilégiez Bertrand votre vieux contrat s'il vous donne satisfaction. Bien sinon sûr. N'hésitez pas à diversifier vers des produits plus modernes, notamment avec des offres d'unités de compte performantes et peu chargées en frais.
Jean s'apprête à acheter un appartement à Paris à 350 000 euros. Il se demande s'il faut emprunter ou le financer, en puisant notamment, nous dit Jean, dans l'épargne de son assurance-vie.
Alors la réponse, elle dépend d'éléments techniques et puis de facteurs psychologiques. Ouais, la psychologie, surtout, c'est qu'il faut être à l'aise, bien sûr avec ses placements, mais aussi avec ses dettes. Bon, vous avez la moitié des Français qui ne souhaitent pas, entre guillemets, dans l'absolu et dans l'idéal, être endetté. Parce que qui être endetté, ça veut dire, c'est une source de stress. Hein. Comment vais-je rembourser, faire face à mes obligations bancaires si jamais il m'arrive quelque chose, donc alors un pépin, chômage, invalidité. Puis vous avez l'autre moitié qui considère que emprunter, ça veut dire qu'une banque vous a fait confiance, c'est une opportunité de s'enrichir plus vite et de profiter d'un effet de levier. Bon. Donc Jean, dans quelle catégorie vous trouvez ? Au-delà de ces éléments psychologiques, vous avez des éléments techniques. Bon. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est emprunter aujourd'hui, par exemple, à 3%, c'est-à-dire emprunter à un taux relativement élevé, autour de 3%. Mm-hmm. Vous souriez, mais en additionnant le coût de l'assurance décès invalidité au monde, on peut monter à ce type de taux. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est d'emprunter à un taux élevé et de placer à un taux bas. Bon. Et bien sûr qu'il faut ne pas hésiter à emprunter pour profiter d'un effet de levier, à condition que le coût du crédit soit inférieur au rendement attendu de votre placement qu'à présent de l'assurance-vie. Donc voilà ce qu'on peut dire. C'est très, très personnel. Moi, j'aurais tendance... Alors, il y a un an, la réponse était très facile. Hein. Il était possible d'emprunter à 0,5, 0,6%, même avec l'assurance décès invalidité autour de 50 ans. Vous vous retrouviez avec un taux de 1,5% donc, d'emprunt. Donc, vous pouviez facilement battre les rendements proposés. Aujourd'hui, si vous
C'est plus complexe.
C'est plus complexe. Donc, si vous empruntez aujourd'hui, Jean, avec votre épargne... qui vous reste, il faut la placer sur les marchés financiers.
Voilà donc cette réponse. Il nous reste deux minutes, pour répondre à Paul. Sa maman a Alzheimer et est en maison de retraite. Et il se demande s'il peut vendre ou louer son logement, sachant que ce dernier a fait l'objet d'une donation en nue propriété en 2000.
Alors, la question est un peu technique pour terminer. Et en fait, il y a deux questions derrière celle de Paul. En deux minutes, donc réponse une minute pour chaque question. Qui est autorisé à vendre la maison? Et ensuite, l'impact fiscal de la cession. Donc la maison, elle est détenue en... il y a un démembrement de propriété. Donc là, en cas de démembrement de propriété, la mère de Paul détient l'usufruit, lui détient la nue propriété. Donc il faut l'accord des deux pour vendre le bien. Se pose ensuite, bien sûr, la question du régime de protection de la maman de Paul, qui est atteinte d'Alzheimer. Donc tutelle, curatelle... en tout état de cause, Paul ne peut prendre la décision au nom de sa mère que si sur le plan légal il est bénéficiaire d'une délégation de pouvoir. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question, c'est l'impact fiscal de la cession. Eh ben, la mère de Paul va vendre un bien immobilier qui est sa résidence principale. Donc, à partir de ce moment-là, elle ne payera pas d'impôt sur la plus-value, sur l'argent qui lui revient. Par contre, Paul, lui, il est que nu propriétaire d'un bien qui n'est pas sa résidence principale, donc il va malheureusement passer par la case impôt. Donc, vous voyez là une problématique assez complexe avec des tas d'enjeux fiscaux, des enjeux juridiques, des enjeux de protection d'une personne âgée. Surtout que, en plus, c'était pas, mais me semble-t-il, semble-t-il que le père de Paul est encore en vie, donc il y a une troisième personne qui intervient. Voilà, peut-être qu'un rendez-vous chez le notaire s'impose, mon cher Paul.
Et dans tous les cas, on peut penser au mandat de protection future quand on a encore toute sa tête et que... Ça permet d'éviter les pépins.
Alors, bah, ça permet d'éviter les pépins, ça permet d'organiser sa fin de vie quand effectivement on est encore, on a encore toutes ses capacités pour le faire.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions comme chaque lundi. Christian Fontaine pour le magazine Le Revenu. Dans un instant, c'est 60 minutes business. Et on retrouve donc, comme chaque midi, Sandra Gandoin.
Bonjour Cédric. Sandra. On va parler beaucoup de pétrole aujourd'hui. Pétrole russe. Il a été plafonné, hein, vous le savez, son prix ce week-end. À partir d'aujourd'hui, l'Union européenne, le G7, l'Australie ont pris cette décision. Qu'est-ce que ça va changer? D'autant que ça intervient le même jour que cette autre mesure, plus aucun cargo ne pourra décharger de pétrole russe dans les ports européens. Bon, qu'est-ce que ça va faire sur la Russie, sur le conflit en Ukraine? On va poser la question à Denis Florin. Et puis on recevra Emery Jacquilla, le président de la CAMIF, qui en a fait une entreprise à mission depuis qu'il l'a rachetée il y a une douzaine d'années. Ce sera notre invité dans une douzaine de minutes. Et puis à 12h30, on répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs avec Lorraine.
C'est à suivre dans une poignée de secondes. Le marché parisien, lui, reste pour le moment pénalisé. Il est timide ce matin, moins 0,33%, 6719 points. Et moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, à vous donner rendez-vous demain matin à 10h.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.